Kézéko, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes.
L'univers est à la fois proche et lointain. Bien que nous pensions tout savoir à son sujet, nous ne connaissons en réalité que 4% de l'univers actuel. Les planètes, les étoiles et les galaxies ne représentent en réalité qu'une infime partie de celui-ci, et une grande partie de l'univers reste encore inconnue. Ce ne sont d'ailleurs pas les choses visibles qui définissent l'univers, mais plutôt le vide qui les entoure. La recherche spatiale et l'astrophysique prennent donc tout leur sens en s'attaquant à déceler les mystères de l'univers. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir dans ce 24e épisode de Kézéko l'astrophysicien, le vulgarisateur et l'auteur Sébastien Carassou, que vous aurez l'opportunité de mieux connaître au fil de l'interview. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation.
Bonjour Sarah, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaîtraient pas ?
Alors oui, donc c'est difficile à résumer, mais effectivement, je suis docteur en astrophysique. Ma spécialité, c'était l'évolution des galaxies. Et depuis 2017, en fait, je suis vulgarisateur scientifique indépendant sur plein de formats différents qui vont d'une chaîne YouTube au podcast, en passant par des bouquins, des conférences, des ateliers. Donc voilà, je raconte des histoires avec de la science dedans, essentiellement dans le domaine du spatial et des sciences de l'univers au sens large. Donc voilà.
Et justement, pour en venir à ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu es passé par la prépa, par l'école d'ingénieur ? En fait, quel était ton parcours scolaire ?
Ouais, alors mon parcours scolaire, il est assez classique, on va dire. J'ai fait un bac S, ensuite j'ai enchaîné avec une prépa maths physique, donc MPSIMP. Mais je savais de base que je ne voulais pas faire d'école d'ingénieur, donc je suis passé directement après la prépa par la fac. Donc j'ai fait ce qu'on appelle le magistère de physique fondamentale de la fac de Paris-Saclay. Enfin, à l'époque, on appelait ça Paris-Sud 11, maintenant on appelle ça Paris-Saclay. Donc voilà, j'ai fait une licence et un master en physique fondamentale, et je me suis spécialisé ensuite en astrophysique, donc via mon master 2, et j'ai embrayé avec une thèse, donc un doctorat, donc c'est 3 ans de contrat où tu produis de la recherche pour la première fois de ta carrière. Et donc je me suis spécialisé dans l'évolution des galaxies et je me suis demandé comment est-ce que les galaxies évoluaient en taille, en luminosité et en couleur au fil de l'histoire de l'univers. Donc ça a été ma question qui m'a occupé pendant 3 ans et ensuite j'ai arrêté la recherche pour me consacrer à la vulgarisation.
Et justement en fait pourquoi t'as décidé de choisir l'astrophysique ? Est-ce que c'était une vocation, un rêve d'enfant ou est-ce que c'est venu en fait un peu plus tard par hasard ?
C'était complètement un rêve d'enfant. Moi, je voulais faire de l'astrophysique depuis que j'ai 12 ans. La science, je suis arrivé via la science-fiction. En fait, j'étais un grand fan de science-fiction. Je dévorais tous les Star Wars, je dévorais tous les Asimov, je dévorais plein de choses sur plein de formats différents, hein, du jeu vidéo, de la bande dessinée, des romans, beaucoup de romans, des films, des séries. Et tout ça m'a donné une certaine curiosité sur les objets de l'univers. Il y avait beaucoup de paysages cosmiques qui étaient assez merveilleux, notamment dans les Star Wars, avec plein de planètes exotiques. Et moi, je voulais comprendre tout ça. Donc, même le mot astrophysicien, d'ailleurs, je l'ai rencontré pour la première fois de ma vie dans un film qui s'appelle La planète au trésor, qui est une adaptation de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, mais dans l'espace, un film de Disney des années 2000, qui est assez cool. Et c'est là que je rencontre ce mot astrophysicien. Il se trouve qu'à l'époque, je suis le seul élève de ma classe à connaître ce mot, et donc je l'ai chéri pendant quelques années, et c'est devenu un peu un but de vie jusqu'à ma thèse en fait.
D'accord, c'est vrai que c'est intéressant en fait. En général, il n'y a pas une approche en fait de cette manière, c'est pas la science-fiction qui ramène à la science. Et justement, en fait, cette approche-là, est-ce qu'elle n'a pas été handicapante ? Est-ce que tu n'as pas eu une sorte de désillusion quand tu as vraiment été astrophysicien ? C'était comme dans les films ou finalement c'était une réalité un peu plus triste ?
Pas une désillusion, par contre, c'était effectivement pas ce à quoi je m'attendais. Moi, j'ai grandi avec les Tintins, etc. Donc, j'imaginais quand j'étais tout petit que le métier d'astronome, c'était essentiellement de regarder dans des vieilles coupoles à travers des lunettes astronomiques et des télescopes. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout ça. La plupart du travail des astronomes aujourd'hui se passe derrière un écran. Donc, on fait du code en fait, que ce soit pour analyser des données, pour faire des simulations informatiques. Donc moi, c'est là que je me suis rendu compte que le travail d'astronome, il est assez différent de celui qu'on voit dans la pop culture. Par contre, c'était quand même pas une désillusion, parce qu'on garde quand même à l'idée qu'on travaille sur les choses les plus grandes et les plus vastes de l'univers, et qu'on travaille sur des échelles de temps qui se comptent en milliards d'années, donc c'est quand même des choses qui nous dépassent, et c'est très passionnant quand même.
D'accord, je vois, je dirais juste que c'était différent finalement, mais c'était pas non plus une déception. Et justement, en fait, aujourd'hui, est-ce que tu fais toujours de la recherche en astrophysique ou est-ce que tu es justement essentiellement dans la vulgarisation scientifique ?
Alors non, aujourd'hui, j'ai arrêté la recherche depuis 2017 et je me consacre à 100% à la vulgarisation. Mon but en ce moment, c'est de raconter des histoires avec de la science dedans, mais sur des formats très très différents, avec des codes différents et devant des publics de plus en plus variés. D'autres vocabulaires, d'autres manières de comprendre les choses. Donc ça, c'est ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de raconter des histoires de manière différente.
Et justement, en fait, l'un de tes outils, c'est ta chaîne YouTube Sense of Wonder. Et en fait, comment t'en es arrivé à créer cette chaîne YouTube ? Est-ce que c'était sur un coup de tête ? Est-ce que c'était un projet auquel t'avais déjà pensé pendant plusieurs années ? En fait, comment t'as découvert le monde de la vulgarisation scientifique ?
Donc pour te remettre en contexte, on est en 2014, et en 2014 il se passe quelque chose d'assez improbable, c'est après 20 ans d'antenne, l'émission C'est pas sorcier s'arrête à la télé. Moi j'ai été extrêmement déçu de cette nouvelle, il se trouve qu'à l'époque je tenais un blog qui s'appelait le Sense of Wonder, et qui était un peu un pot pourri dans lequel je mettais tout ce que je trouvais d'incroyable sur l'univers. Et j'ai rencontré en 2014 un type qui s'appelle Étienne Ledollet, qui est journaliste scientifique, qui travaille aujourd'hui pour l'agence spatiale française, et qui m'a dit qu'il voudrait bien se lier avec moi pour faire un projet, audiovisuel, n'importe lequel. Et il se trouve qu'à l'époque, il y a une explosion des chaînes YouTube de vulgarisation, et donc je me suis dit que bah, ce serait peut-être un canal à prendre, un public nouveau à toucher, peut-être que je pourrais toucher plusieurs milliers de personnes au lieu de quelques centaines de milliers de personnes, que je touchais avec mon blog. Donc ça a remarquablement bien marché, on a eu des centaines de milliers d'abonnés, des centaines de milliers de personnes qui ont regardé notre chaîne, notamment parce que on s'est lancé au bon moment et au bon endroit, qu'on a rencontré les bonnes personnes aussi qui nous ont mis en avant à cette époque-là. Et en fait, on a tous les deux essayé de comprendre les codes de YouTube qui ont émergé entre les années 2014 et 2017. Donc moi j'étais déjà un grand consommateur de vulgarisation sur YouTube, notamment grâce aux Vlog Brothers, les frères Hank et John Green, et aussi avec Vsauce, Veritasium, Viheart, voilà, il y avait plein de chaînes anglo-saxonnes que je suivais déjà, et quand ça a commencé à démarrer en France, je me suis dit qu'il fallait prendre le train en marche, et ça a été plutôt une réussite sur ce coup-là.
Donc du coup, tu disais que tu avais commencé ta chaîne YouTube en 2014, c'est-à-dire qu'en fait, tu travaillais encore en tant que chercheur. Et justement, en fait, comment tu faisais pour gérer à la fois ta chaîne YouTube et ta vie professionnelle ? C'était pas compliqué au niveau de l'emploi du temps ?
C'était très compliqué, et mes supérieurs hiérarchiques, ça les embêtait pas mal que je passais une grande partie de mon temps libre à faire de la vulgarisation. Mais voilà, c'était une passion aussi, hein, tout simplement. J'adore raconter des histoires, j'adore raconter ce que j'apprends, et il se trouve que ce que j'apprends, ce sont des choses que je considère merveilleuse, et c'est pour ça que ça s'appelle le Sense of Wonder, en fait. Le Sense of Wonder, c'est le sentiment d'émerveillement que je ressens, moi, quand je contemple l'infinité du cosmos, etc., et que j'ai envie de transmettre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte, qui est une vraie vocation, et voilà, donc je pouvais décemment pas arrêter ça, même pendant une période de thèse, qui est quand même une période de ta vie assez chronophage, hein, parce qu'une thèse, c'est quand même quelque chose qui te demande 100% de ton temps, et une chaîne YouTube aussi, donc j'ai vécu une espèce de double vie pendant un moment.
Et justement, en fait, cette chaîne YouTube, tu as pu y faire de la vulgarisation, et aujourd'hui, tu es même passé à un nouveau format qui est le format livre. Alors justement, pourquoi, en fait, c'est vrai que tu étais plus sur le format audiovisuel, tu es passé à l'écrit, c'est assez différent, mais c'est vrai que tu as pu très bien le faire. Et aussi, est-ce que tu pourrais nous dire, en quelque sorte, de quoi parle ton livre ? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce livre, donc dans cette deuxième partie de l'interview, on va un peu plus s'y intéresser, que ce soit en fait sur le travail de l'écriture de ce livre, mais également sur les thèmes qu'il aborde.
Ouais, alors ce livre, il s'appelle Le Cosmos et nous, il a été publié en 2021 aux éditions des Équateurs, et en fait, l'histoire de ce livre, il commence en 2017, en fait, alors que je donnais une interview pour le journal Le Monde, et sur mon passé de complotiste notamment, voilà, j'ai un petit passé complotiste dans mon adolescence, ensuite je suis retourné du côté lumineux de la force, plus tard. Et à la suite de cet article de journal, il y a plein d'éditeurs qui m'ont contacté pour que je fasse un bouquin. Et j'avais pas pour ambition de faire des bouquins de vulgarisation jusqu'à ce moment-là, mais comme l'opportunité s'était offerte à moi, je m'étais dit, c'est peut-être le moment de se poser, de prendre du temps par rapport à ce que j'ai appris pendant toutes mes études, pendant mes années de recherche, et d'essayer de synthétiser un petit peu tout ce que je peut résumer sur ce que la science du 21e siècle a à nous dire sur nos origines, sur l'origine du cosmos, sur la structure de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, sur notre place entre ces deux infinis et sur quelques questions existentielles que je me pose depuis tout petit. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire être vivant ? Est-ce qu'on est seul dans l'univers ? D'où est-ce que viennent nos atomes ? Et il se trouve que les sciences du 21e siècle, donc l'astrophysique, mais aussi la biologie moléculaire, l'exobiologie et plein d'autres sciences, eh bien, offrent des éléments de réponse, alors pas les réponses complètes, hein, mais au moins des éléments de réponse, et j'ai eu envie, à travers ce livre, à travers Le Cosmos et nous, de résumer un petit peu les derniers siècles de recherche dans un format qui soit le plus accessible possible, qui ressemble un peu à un roman, et qu'on puisse se laisser emporter dans cette aventure humaine pour essayer d'en savoir plus sur les questions les plus profondes qu'on puisse poser aujourd'hui.
D'accord, donc de ce que j'ai compris, en fait, c'est un livre qui mêle un peu de la philosophie, des questions existentielles, tout en étant finalement lié à la science. Et justement, en fait, comment tu arrives à aborder des thèmes en fait, assez philosophiques à l'aide d'outils scientifiques ?
Alors, il se trouve que la philosophie et la science sont loin d'être incompatibles, et dans certains domaines, notamment l'exobiologie, le domaine de la science qui étudie la vie dans son contexte cosmique, donc qui essaie d'en savoir plus sur les origines de la vie sur Terre, mais aussi ailleurs dans le cosmos. Par exemple, pour chercher de la vie dans l'univers, il faut avoir une définition de la vie qui soit robuste, qui nous permette de distinguer des objets animés d'objets inanimés. Et c'est pour ça qu'on a besoin de philosophie, en fait, pour avoir des définitions qui soient suffisamment robustes pour pas qu'on trouve des choses qu'on pense mortes mais qui sont en fait vivantes, et inversement. Donc ça fait partie des situations dans lesquelles on a besoin d'une définition de la vie qui soit robuste. C'est aussi le cas quand on se pose la question de l'origine de la vie. Quand on pose la question de l'origine de la vie, ce qu'on sait aujourd'hui sur cette question, c'est que on connaît les ingrédients dont on a besoin pour faire du vivant. On sait que la vie est apparue au moins une fois sur notre planète Terre, et pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Y a plein d'étapes qui nous manquent encore dans l'établissement d'une théorie de l'évolution du passage de l'inanimé à l'animé sur la planète Terre et ailleurs dans le cosmos. Donc pour ça aussi, on a besoin d'une définition du vivant. Et en fait, il y a un effort de cadrage de questions et de définition des termes dont on a besoin pour faire de la science de manière rigoureuse, tout simplement. Et c'est pour ça que j'utilise des outils philosophiques.
Et justement, en fait, le thème de l'exobiologie que vous avez abordé et de la vie extraterrestre plus généralement, c'est un thème de base qui est issu de la science-fiction. Et justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des chercheurs qui se penchent sur le sujet ? Est-ce qu'on a eu des avancées scientifiques qui nous permettent d'avoir, non pas une réponse, mais un début de réponse à cette grande question ?
Alors, énormément, et je suis assez optimiste sur le fait qu'on est probablement la première génération à avoir des outils qui pourraient nous permettre, si l'univers veut bien, d'avoir des éléments de réponse fiables, les premiers de l'histoire de l'humanité, à cette question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?». Alors, sur quoi j'étaye cette affirmation ? Eh bien, notamment parce qu'on commence à avoir des outils comme le James Webb Space Telescope, qu'on a envoyé dans l'espace en 2021, qui est un petit peu le successeur du télescope Hubble et Spitzer. Ce télescope, il a la particularité d'avoir des instruments qui vont nous permettre de sonder la composition chimique de l'atmosphère d'exoplanètes, et notamment d'exoplanètes de taille rocheuse, de taille terrestre, ce qu'on pouvait pas faire jusqu'à présent. Donc, ce qu'on sait sur Terre, c'est que la vie, elle a tendance à modifier la composition chimique de l'atmosphère d'une planète, notamment sur Terre, si on peut respirer de l'oxygène, cet oxygène, il est en très grande majeure partie produit par des bactéries et des plantes. Et donc, si on peut respirer de l'oxygène aujourd'hui, c'est grâce à la vie sur Terre. Si on trouve de l'oxygène dans l'atmosphère d'une exoplanète, ce sera un indice très intéressant sur la présence ou non de vie sur cette planète. Donc, c'est pas la seule manière de créer de l'oxygène dans une exoplanète, mais en tout cas, si on en trouve, on pourra se dire « Hmm, cette planète, elle est très intéressante, on devrait en regarder un petit peu plus en détail. » Donc ça, c'est une des manières qu'on a aujourd'hui d'étudier la vie dans son contexte cosmique. Et si on se concentre un petit peu plus proche de nous, dans notre propre système solaire, on a des sondes aujourd'hui qui sont capables de fouiller dans le passé lointain de certaines planètes, notamment de Mars. Mars, notamment, aujourd'hui, c'est une planète qu'on considère morte, en tout cas à sa surface. Par contre, il y a plus de 3 millions et demi d'années, on sait que Mars a abrité des étendues d'eau liquide, parfois très vastes, peut-être même un océan d'eau liquide instable, pendant des millions d'années au minimum, et on ne sait pas combien de temps il a duré cette étendue d'eau liquide. Mais on sait que sur Terre, à partir du moment où on a de l'eau liquide et certains éléments chimiques très particuliers qui sont présents à la surface de Mars aujourd'hui, on a de la vie sur Terre qui a émergé. Donc on a tous les ingrédients sur... Et donc on a tous les ingrédients qui nous permettent de faire de la vie sur Mars. Est-ce que Mars a effectivement été habité dans son passé? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais on envoie des robots à sa surface pour essayer d'en savoir plus. Une autre piste d'investigation, c'est dans ce qu'on appelle les lunes glacées de planètes géantes, donc notamment autour de Saturne et de Jupiter. On a quelques lunes, comme Europe ou Encelade, qui sont des grosses boules de glace à la surface, mais par contre, si on creuse plusieurs kilomètres dans les profondeurs de ces lunes, eh bien on trouvera probablement des océans d'eau liquide, et parfois même des océans d'eau liquide salée. Et ça, c'est très très intéressant, parce que dans ces lunes, au cœur de ces lunes, enfin, en tout cas dans les profondeurs de ces lunes, on a absolument, normalement, tout ce qu'il faut pour faire de la vie. Et probablement de la vie actuellement viable. Donc, pour l'instant, on n'en a aucune idée de si cette vie, elle existe ou pas. Par contre, dans les années à venir, on va envoyer des sondes spatiales, notamment dans quelques semaines après après cette interview, on va envoyer une sonde qui s'appelle JUICE. C'est l'Agence Spatiale Européenne qui s'en occupe. Qui va étudier certaines lunes glacées de Jupiter, et notamment Europe, qui est très très intéressante à ce niveau-là, et qui présente même des indices de geyser, donc cet océan souterrain est éjecté en partie à la surface de la Lune, et même dans l'espace, et donc on aura des instruments pour pouvoir sniffer un petit peu la composition chimique de ces geysers, et d'en savoir plus sur l'habitabilité probable, potentielle d'Europe. Donc ça, c'est très très sympa, et dans les décennies à venir, j'ai très très hâte de savoir ce qu'on va en retirer.
D'accord, donc de ce que je comprends, en fait, pour étudier par exemple la vie sur des planètes lointaines, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de trouver des indices et appliquer le principe d'actualisme pour essayer d'imaginer en fait ce qu'il y aurait pu avoir, comme des cours d'eau ou des traces de vie.
Exactement, tout à fait.
Et justement, en fait, c'est vrai que c'est assez compliqué en fait de faire de la recherche en astrophysique ou même sur des périodes bien plus lointaines. Par exemple, si on en revient en fait à l'Odyssée de la vie ou si on en revient au Big Bang, ça reste assez compliqué de faire des expériences. Et est-ce que tu penses que dans ce cas-là, on peut faire des espèces de fiction théorique finalement pour substituer à l'expérience, qui est assez compliquée, de la même manière qu'on le fait en philosophie, ou tu penses que c'est pas une manière très rigoureuse de procéder en science?
Alors, en fait, l'astronomie, c'est une science assez particulière, parce qu'effectivement, dans la majeure partie des cas, c'est difficile de faire des expériences avec les objets qu'on étudie. C'est difficile de prendre deux trous noirs et de les faire fusionner dans un laboratoire, par exemple. On peut pas se permettre de faire ça. Par contre, on a deux outils qui sont très importants et qui nous permettent quand même de faire de la science rigoureuse en astronomie. Et ces outils, c'est l'observation. Donc on va prendre quelques messagers, que ce soit de la lumière ou certaines particules qui arrivent des confins de l'espace, et ces grains de lumière ou ces particules vont contenir de l'information sur leur provenance, sur la composition chimique de certains astres, sur la distance qui nous sépare de ces astres, etc. etc. Donc ça, l'observation, déjà, ça nous permet d'en savoir un peu plus. Si on fait quelques hypothèses, comme les lois de la physique, c'est les mêmes partout, les lois de la chimie, c'est les mêmes partout. À partir de ce moment-là, on peut faire de la science un petit peu rigoureuse sur des choses qui sont très très éloignées de nous, sans avoir à les toucher directement. un autre outil qui est très intéressant et qui est arrivé à partir des années 70-80, c'est l'arrivée des supercalculateurs et notamment des simulations numériques. Les simulations numériques, l'idée c'est qu'on a un code informatique dans lequel on met toutes les lois de la physique qu'on connaît, et même de la chimie maintenant. Et on a des ordinateurs de plus en plus puissants qui nous permettent de simuler le comportement de certains astres, par exemple la surface de certaines étoiles, par exemple l'évolution du climat des planètes lointaines, ou par exemple, si on se rapproche plus près de mon domaine d'expertise, de l'évolution des galaxies. Par exemple, on va simuler la collision entre plusieurs galaxies, voire une grande fraction de l'univers observable à très très grande échelle pour essayer de comprendre comment l'univers est passé d'un espèce de brouillard chaud et compact à l'univers qu'on observe aujourd'hui avec des planètes, des étoiles et des galaxies. Donc ça, ces deux approches-là, l'observation et la simulation, elles sont complémentaires aujourd'hui. Elles sont complémentaires aussi aux scénarios théoriques, donc aux équations qu'on utilise pour pouvoir donner une matérialité à tout ça, en tout cas de comprendre les scénarios qui nous permettent d'arriver à l'univers qu'on observe aujourd'hui. Et ces scénarios théoriques, ils sont toujours basés sur des observations et sur des simulations informatiques.
D'accord, donc en fait, pour remplacer l'expérience, cette fois-ci, on a plus recours à des logiciels ou de l'intelligence artificielle pour simuler en fait ce qu'on peut pas observer.
Tout à fait, exactement.
Mais du coup, ça se repose quand même sur des hypothèses que l'on a faites, donc c'est pas toujours aussi rigoureux, en fait. On peut pas donner une confiance aveugle à ces simulations non plus.
Alors bien sûr, on n'aura jamais, par exemple, de simulation parfaite qui peut reproduire à la perfection toutes les échelles de la réalité. Ça, c'est très difficile à faire, ça demande beaucoup trop de puissance de calcul, et effectivement, quand t'es dans un colloque scientifique avec des gens qui te présentent des simulations, t'as toujours une petite recette interne qu'on appelle de la physique sous-grille, dans le jargon, qu'il est important de critiquer. Et dans tous les cas, l'entreprise de la science, en tout cas et de manière plus générale, la démarche scientifique, ça consiste à toujours critiquer les hypothèses, que ce soit nos propres hypothèses de travail ou les hypothèses des collègues. Mais en tout cas, c'est nécessaire à l'avancée des sciences, mais ça ne veut pas dire que c'est pas rigoureux. La rigueur, elle est dans le processus et dans le fait qu'on va identifier ces points aveugles, ces angles morts de la science, et pour essayer de s'en départir et d'arriver à des meilleures observations et de meilleures simulations au fil du temps. Donc c'est un processus.
D'accord, je vois. Oui, c'est vrai que c'est imparfait, mais en fait ça permet déjà d'avoir une piste de réflexion, parce que sinon, autrement dit, c'est un peu compliqué de vouloir étudier quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc c'est un premier pas. Alors il y avait un autre thème qui m'avait interpellé en fait dans votre livre, c'était la provenance des atomes. En fait ça m'avait posé question parce que justement aujourd'hui on pense connaître d'où proviennent les atomes avec cette histoire de nucléosynthèse, de quoi ils sont composés. Alors justement en fait, quel est le point auquel vous vous penchez dans votre livre?
Alors, le point de départ de ce chapitre-là sur l'origine des atomes, c'est nous, c'est le corps humain. Il se trouve que le corps humain est constitué d'atomes. Ces atomes, on les regroupe en familles qu'on appelle des éléments chimiques. Et il se trouve que si on fait le portrait de tous les éléments chimiques qui nous constituent, eh ben on est constitué essentiellement de 4 éléments chimiques qu'on regroupe sous l'acronyme de CHO. Alors CHO, ça veut dire carbone, hydrogène, oxygène et azote. Et ces 4 éléments chimiques constituent 99% des atomes de notre corps. Et alors ça c'est pas anodin, hein, parce que ces quatre éléments chimiques, on les retrouve aussi dans l'intégralité du vivant, ça fait partie des éléments chimiques les plus simples que l'univers arrive à produire. Et donc tout le jeu à partir de ce moment-là, quand on s'interroge sur nos origines, une question un peu déplacée, c'est de se dire d'où viennent les atomes qui constituent notre corps, en fait, et qui constituent, dans un certain sens, une forme d'identité, voilà, une identité matérielle. Et quand on tisse le fil de l'origine de nos atomes, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus vieux que ce qu'on pourrait croire. On est constitué à 60% d'eau à peu près, de molécules d'eau, et ces molécules d'eau, c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'oxygène. Et l'hydrogène de nos molécules d'eau, il a été produit il y a 13,8 milliards d'années dans les conditions ardentes de l'univers primordial. Donc ça, si on cherche à dater notre corps humain, une bonne partie, alors les atomes d'hydrogène, c'est 10% de notre masse, donc un dixième de notre masse, est âgé de 13,8 milliards d'années. Et ça, juste cette idée-là, je la trouve absolument folle. Maintenant, on peut se demander d'où viennent nos atomes de carbone, d'oxygène, d'azote, de phosphore, de soufre et plein d'autres. Et là, on commence à se rendre compte que la réponse, elle vient des étoiles. Si on observe les étoiles, la composition chimique des étoiles, on observe que ces étoiles, c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, mais ce qui fait que ces étoiles peuvent émettre de la lumière, c'est la fusion nucléaire qui a lieu dans leur cœur. Et cette fusion nucléaire, elle fusionne des éléments chimiques de plus en plus lourds selon la masse des étoiles. Et à la fin de leur vie, ces étoiles, elles éjectent de manière plus ou moins violente leur couche externe et rejettent tous les éléments qu'elles ont forgés dans leur cœur pendant toute leur vie. Et donc une bonne partie des atomes qui nous constituent ont été formés au cœur d'étoiles massives il y a plusieurs milliards d'années. Et ça, c'est une autre leçon très importante de l'astrophysique contemporaine, c'est qu'on est littéralement, pas de manière juste poétique, mais très littéralement, les fils et les filles des étoiles passées.
Donc c'est là où, en fait, l'expression « nous sommes de la poussière et d'étoiles » prend tout son sens, finalement.
Absolument, absolument. Je crois que cette expression, elle a été popularisée par Hubert Reeves en France. On retrouve les traces aussi dans les écrits d'un Américain qui s'appelle Carl Sagan, qui m'a beaucoup inspiré, notamment pour l'écriture du Cosmos et nous. Donc oui, c'est une réalisation, peut-être l'une des réalisations les plus importantes de l'astrophysique contemporaine. Et c'est une réalisation relativement récente, qu'on a réalisé ça dans les années 50. Les années 50, c'est pas si loin que ça. C'est deux générations, voire trois maximum. Quoi.
Et pour finir, j'aimerais te poser une question un peu plus technique, plutôt sur l'écriture de ce livre, en fait. Comment ça s'est déroulé? C'est vrai qu'il y a des thèmes scientifiques, mais également des thèmes philosophiques. Est-ce que tu as dû te former seul? Est-ce que tu t'es entouré d'experts? Est-ce que tu as fait des interviews, en fait, pour écrire quelques chapitres? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les backstage de l'écriture du livre?
Oui, bien sûr. Alors, ça a été essentiellement une aventure très personnelle, notamment parce que l'un des buts de l'écriture de ce livre, c'était aussi d'avoir cette espèce de vision d'ensemble de ce que les sciences contemporaines nous disent de nous, de nos origines. Comment j'ai fait ça? J'ai pris des cours, en fait, tout simplement. J'ai pris des cours dans plein des domaines que j'aborde dans le livre, que ce soit la physique, l'astrophysique, la phylogénie moléculaire, la biologie cellulaire, et même la philosophie, l'histoire des sciences, l'anthropologie. Donc voilà, c'est plein de domaines que j'aborde, et j'ai voulu au moins avoir des cours de base sur ces questions-là pour éviter de tomber dans certains des pièges qui peuvent arriver quand on fait de la vulgarisation et qu'on n'est pas du tout expert, c'est-à-dire par exemple de raconter n'importe quoi ou de raconter n'importe quoi avec... de dire des choses avec un certain cadrage qu'on ne maîtrise pas. Donc ça, c'était mon premier garde-fou. Mon deuxième garde-fou, c'était toujours de citer les sources que j'utilise. Donc je ne suis pas forcément expert dans tous les domaines que j'ai traités. Par contre, tout ce que je dis dans le livre est étayé par des sources scientifiques qui ont été publiées dans des revues à comité de lecture ou sur des encyclopédies, comme en philosophie. Par exemple, en philosophie, on a une encyclopédie très connue qui s'appelle la Stanford Encyclopedia of Philosophy, qui est un peu la bible de la philosophie contemporaine. Et sur tous les sujets que tu peux imaginer, tu as des articles qui sont très très sourcés et très très pertinents sur tous les sujets. Et ça m'a beaucoup beaucoup servi. Ça, c'était mon deuxième garde-fou. Et mon troisième garde-fou, ça a été de faire relire mon texte par plein d'experts de plein de domaines différents. Donc il y en a, je sais pas, une petite dizaine minimum, peut-être un peu plus. J'ai eu en biologie Pierre-Henri Gouillon, en astrophysique Mathieu Bettermain, Sophie Félix, en biologie Éléonore Bello, enfin voilà, des experts reconnus dans leur domaine qui ont fait des études là-dedans, contrairement à moi, et qui m'ont pointé parfois quelques petites erreurs que j'avais faites dans le livre, et je suis très reconnaissant de ces retours-là. Donc voilà, j'ai appliqué un petit peu le processus scientifique, quoi, de revue par les pairs. C'est-à-dire, quand tu fais un article scientifique, tu te fais relire par des experts du domaine pour être sûr que tu dis pas des bêtises. Donc ça a été une grosse, une grosse réflexion de mon côté pour essayer de pas tomber dans les travers de l'expert toutologue qu'on retrouve parfois dans les médias et qui finissent par dire n'importe quoi. Et je suis très reconnaissant à tout le monde qui a relu de près ou de loin ce livre.
D'accord, donc c'est vrai que c'est un livre assez riche, très documenté. Et justement, en fait, si on souhaite se le procurer, il est disponible dans certaines librairies ou sur toutes les plateformes.
Alors, il est disponible dans toutes les bonnes librairies, je pense. Il n'est pas très bien distribué, mais vous pouvez le trouver sur les grandes distributions en général. Vous pouvez le trouver aussi en audiobook sur Audible depuis quelques mois. Donc voilà, c'est différentes manières d'en savoir plus sur l'univers. Donc j'espère que tes auditeurs et tes auditrices l'écouteront ou le liront et qu'ils en apprendront un petit peu plus sur l'univers qui nous entoure.
Eh bien écoutez, l'épisode touche à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité Sébastien Carasso pour ce moment de partage exceptionnel et très enrichissant. Je tiens également à remercier tous nos auditeurs pour leur fidélité et leur écoute attentive jusqu'à la fin de l'épisode. En tout cas, si vous souhaitez découvrir la chaîne de notre invité ou acheter son livre, toutes les informations nécessaires se trouveront dans la description de l'épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Kezako.